tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
Direct de ma cuisine de Rosemont, Montréal, c'est ton épisode préféré. L'épisode, je pense que c'est le 170e, mais là, je suis de plus en plus sûr de rien. Que je vous admette que ce fut une énorme fin de semaine sur tous les plans au niveau de la boxe. Ah, je ne veux pas faire pleurer personne, c'est le segment où je vous raconte ma vie en début de programme, comme dirait ceux. Je suis en train de faire des ajustements techniques pendant que je vous parle. J'essaie que mon micro ne griche pas cette semaine parce que j'ai Martine Vallière-Bisson qui m'a dit que c'était insupportable et que ça la mettait de mauvaise humeur. Fait que là, vraiment, je travaille là-dessus. Vendredi, je suis parti, ça dérape. Les Canadiens jouaient. Je suis rentré d'une taverne. Il y avait un 2 pour 1. J'ai bu de la bière comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je sais pas ce que j'ai. Je suis en perdition. Je n'ai pas vraiment été au gym cette semaine. Je suis retombé dans mon ancienne vie. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais me ressaisir dès aujourd'hui. Okay? Le bon Dieu n'a-t-il pas dit l'important, c'est pas de tomber, c'est de se relever après. Là, j'ai eu une mauvaise semaine. On dirait quand je suis en vacances, je suis hors routine et je suis mêlé comme un chien dans un jeu de quilles. Comme hier, je vous ai même pas fait de podcast. Comme là, j'ai essayé de me replacer et de faire ce podcast-là aux 6 jours. Donc, j'en ai parlé, si les gens qui écoutent l'autre programme, ils vont dire qu'il est fatigant, mais j'ai un problème d'alcool. Quand je tombe dans l'alcool, je tombe sur un moyen temps, mais là, je viens de me relever. Okay? Ça devrait aller. Eye of the Tiger Management m'ont aidé en sortant leur adversaire hier après-midi. Donc, je vais être capable de vous parler des adversaires aujourd'hui. On va être capable de parler de ce qui s'en vient. En tout cas, je vous ai préparé ça. Énorme combat entre Clarissa Shields et Savannah Marshall. Je commence à m'en remettre. Donc, on va aussi en parler. Ça devrait être exceptionnel. Là. Je devrais tout vous descendre ça un après l'autre. Vous devriez triper comme vous n'avez jamais trippé à la maison. Ce sera un énorme podcast cette semaine et pourquoi ne pas tout de suite vous garrocher la publicité du podcast. Avoir un auto et avoir un problème mécanique, je n'hésiterai pas un moment à me présenter chez Malécano Mécanique Générale où le garagiste d'expérience Hassam Laham vous attend pour les changements d'huile, changements pneus, réparation des freins, des mufflers, des bougies, power steering. Si son frère Baha pouvait à peu près tout faire dans un ring, Hassam Laham, lui, peut à peu près tout réparer. Hassam Laham, mécanique générale, au 514-240-5022. Théo, au 02 Arena, il y avait Clarissa Shields qui affrontait Savannah Marshall, qui est tout le combat tenait sa grandeur du fait que, ben, premièrement, Clarissa Shields est invincible, OK? Mais elle a perdu un combat quand elle avait 17 ans contre Savannah Marshall. Puis Savannah Marshall a des enclumes dans les mains. Fait que c'est ce qui rendait le combat intéressant, OK? Parce que, ben, on se répète, là, mais Clarissa Shields, elle a toutes les ceintures. Elle est 14 fois championne du monde, 2 fois championne des Olympiques. Et là, elle affrontait Savannah Marshall, OK? Elle a sacré quand même une bonne volée techniquement, OK? C'était un combat assez serré, qui mériterait d'avoir un combat revanche, mais sur tous les aspects, Shields était plus rapide, beaucoup plus précise, et attendait des pièges. Elle allait dans les câbles, elle réussissait ses contre-attaques. À mi-distance, elle est complètement géniale. Et elle a quand même trouvé un moyen d'anéantir le jab de Savannah Marshall. Et c'est une machine à lancer des coups de poing. Okay? C'était vraiment beaucoup des combinaisons. C'était grandiose. Là, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que Clarissa Shields va offrir une revanche à Savannah Marshall? Est-ce que B, elle va aller en PFL parce qu'elle a un contrat pour se battre dans les arts martiaux mixtes? Ou est-ce que C, elle va simplement chercher une autre adversaire, possiblement notre amie Marie Spencer à 154 livres? Est-ce qu'elle pourrait affronter la gagnante de Natasha Jonas contre Dicker si c'est Jonas? Mais il y a une énorme différence de poids. Jonas vient des 130 livres. Donc, je ne le sais pas, OK? Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai l'impression que Shields, elle va prendre la décision qu'elle voudra bien prendre, mais je serais pas surpris qu'elle aille en PFL et que ce soit très long à défendre son titre, surtout qu'à 160 livres, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat avec du bon sang. Sur la même carte, il y a eu un résultat disgracieux. Michaela Meyer s'est fait voler contre Alicia Baumgartner. Baumgartner refuse d'accorder un combat revanche. J'ai jamais été aussi en colère de mon vivant. Meyer avait tout fait pour l'emporter. Le beau jab. L'autre faisait juste exploser en contre-attaque. Les juges ont manqué un maudit bon combat. Puis là, Baumgartner refuse de donner une revanche. Elle veut unifier contre l'autre fille qui s'appelle Choi. J'aimerais mentionner que j'étais heureux, OK, de voir. Ça fait 2 fois cette année qu'on vend 20 000 billets en boxe féminine. Qu'il y a un buzz sur les pay-per-view. Bravo, la boxe féminine est à son sommet présentement. On a Kim Clavel qui va être en combat d'unification. On a Marie-Ève Dicker qui va être en combat d'unification. On a Marie Spencer qui est au sommet du monde. On a Jessica Camara qui est top 5 dans sa division. On a des prodiges comme Caroline Vert. On a Marie-Pierre Houle qui a le cœur gros comme le monde. C'est intéressant. Sur la carte de Yvon Michel le 1er décembre, 50% des combats seront des combats féminins. On en parlera un peu plus tard lors de la grande chronique boxe québécoise. Puisque là, comme j'ai commencé avec Shields, on va finir les résultats. On est là. Devin Haney a conservé son titre contre George Cambozo Jr. La revanche qui servait absolument à rien. Les frères Maloney ont chacun gagné. Et le méga prospect Emi Ayo, 19-0, s'est fait surprendre par un genre de journeyman australien nommé Faiga Opelou. Donc, on retire Emi Ayo de la liste des prospects dangereux. Il y a Lorenzo Simpson qui est un méga prospect qui a continué à l'emporter. C'était la carte qu'il y avait en Australie. Mais là, moi, là, trop de gars-là en même temps. À un moment donné, j'ai tombé, j'avais mal à la tête, j'étais plus capable de suivre. En Afrique du Sud, moi, j'ai surveillé, là, Chilamba a gagné, Thomas Oosthuizen aussi. Ils ont comme 2 vedettes, sont rendus vieux, mais continuent à vendre des billets là-bas, tranquille. En Angleterre, il y a eu le KO de l'année, peut-être, Liam Parrot qui a gelé Brock Jarvis au premier round. Ceux qui sont amateurs de KO, allez voir ça. Il y avait aussi Dempsey Mekin, qu'on entend souvent que Dempsey Mekin pourrait aboutir contre Simon Kane dans un combat de l'Empire britannique. Est-ce que ça aura lieu un jour? Écoutez, je sais pas. Je vous dis. Ah oui, on a aussi. On a l'adversaire de Simon Kane, là, j'avais trouvé, je l'avais trouvé, puis j'ai attendu que ça sorte pour commenter. Moi, je suis de même, mais je veux pas doubler les journalistes d'expérience. Je trouve les affaires, j'attends. On va les laisser travailler un peu. Ils sont payés pour ça. Je veux pas voler leur job. Puis là, une fois que c'est sorti, je vais commenter. Le segment s'en vient, segment boxe québécoise, faites-vous en pas. J'ai bien des histoires à vous raconter. J'ai un nouveau micro, vous m'écrirez en privé si jamais ça sonne la cacane. Là. J'ai payé quand même dans les 8 chiffres pour ce micro-là, dépendamment où tu places les virgules. Hein. Il y avait sinon, quel autre? Michaela Meyer, c'est ça, je vous l'ai dit. Clarissa Shields. En sous-carte, j'ai trippé sur une fille qui s'appelle Caris Artingstall, une méchante malade. Puis il y avait Lauren Price qui affrontait Timea Bellic. Timea Bellic qui a affronté Marie-Pierre Roule. Timea Bellic, elle a sa face comme défensive, c'est assez dangereux. Merci, c'est ce que j'ai retenu des combats du week-end. Deontay Wilder à l'autre poste, un animal. Au premier round, bedding, bedang, Deontay Wilder est de retour. C'était intéressant d'entendre ses propos d'après-match où Wilder se sentait... Je pense qu'il se sentait mal, notre Wilder, genre, il a dit à quel point c'était un sport dangereux et tout, genre, tu sais, c'est le même gars qui voulait avoir un corps sur sa fiche. On a tous le droit d'évoluer, et je crois que Deontay Wilder est encore dans le top 3 de la boxe poids lourd, tu sais, tu mets Fury, Usyk, et Wilder est encore 3e. C'est pas parce qu'il n'y a pas le numéro de Fury qu'il est plus bon, t'sais. Caleb Plant a fait un geste disgracieux où il a enterré Anthony Durrell avec une fausse pelle. Ça n'a pas sa place. Autant que les propos de Durrell de dire qu'il n'allait jamais perdre contre un petit blanc bec n'avaient pas sa place avant. Un par ses propos, l'autre par ses gestes, je crois qu'il faut condamner les deux hommes et Durrell. Écoute, c'est plus une fleur du printemps. Il faut penser à la... peut-être à la retraite. Et du côté de Plante, ce qui est intéressant, c'est que Plante retourne rapidement au sommet. Il n'est peut-être pas capable de battre Canelo, mais il a clairement sa place dans l'élite. Plante est aspirant numéro 1. Et numéro 2, c'est Christian Mbili. Mais là, c'est certain qu'il y a Benavidez au travail qui attend son tour. Écoute, je ne sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais si Mbili joue bien ses cartes... Mais la journée que Benavidez a eu sa chance, peut-être qu'après ça, ce sera Plante contre Mbili. Je sais pas, mais Mbili appartient à la discussion. Là, on verra comment les choses vont aboutir. Gary Antonio Russell, c'est coup de tête accidentel, a perdu au juge contre Emmanuel Rodriguez. Frank Sanchez a battu Carlos Negron. Frank Sanchez, c'est un poids lourd cubain qui bouge comme un poids moyen. C'est impressionnant. Vito Minelki, un ancien prospect qui a subi une défaite, l'emporte. Et là, il y avait mon gros Gurgen Ovanasyan, un poids lourd de 280 livres, 6 pieds 7, gagné son 4e combat contre Michael Polite Coffey. Et Giovanni Bruzan s'est fait surprendre. Moi, c'est les affaires que je surveillais. Là. Je vous ai toutes lancé ça. Les combats que je surveillais en fin de semaine, les voilà. Je vous lance ma publicité de Martine.
Maintenant, c'est la chronique boxe québécoise.
Direct de ma cuisine de Rosemont-Montréal, ma 2e semaine de vacances. Jamais, je vous le dis, mais je suis prêt pour la retraite. Là. En vacances, c'est incroyable. Tu dors 9-10 heures. Tu prends 1h30 pour déjeuner devant Mario Dumont. Là, tu vas te laver une demi-heure. Tu t'habilles 15 minutes. Tu vas prendre une marche. Ça prend 1h30 à marcher. Tu rentres chez vous, une petite sieste de 5 minutes, tu reprends une autre douche, tu te promènes, j'ai fait le ménage. Moi, j'essaie tout le temps, je vais vous dire une affaire bizarre, j'essaie tout le temps de devenir millionnaire, ok? J'ai utilisé des techniques avec la bourse, le blackjack, les paris sportifs. Là, je me suis lancé, j'étais en train de vendre toutes mes vieilles cartes d'hockey. Tu sais, j'avais des boîtes de souliers, là, j'y prends, je vais voir sur eBay combien ils valent. Là, je me suis acheté des enveloppes, des thèmes. Et là, je te vends ça à la pièce sur eBay, tranquillement, pas vite. C'est malade, OK? Je suis en train de devenir le plus grand vendeur de eBay de l'histoire, OK? Je vends toutes mes cochonneries sur eBay. Je pensais même commencer à vendre des CD sur eBay. Allez voir ça, Larry Popo sur eBay. Des fois, mettons, vous voulez m'encourager, achetez-moi une petite carte de Pierre-Luc Dubois sur le côté. On a appris l'adversaire de Simon Kane. Ça va être un dénommé Lenroy Thomas. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que Thomas, si Simon était groupe Yvon Michel, il ne pouvait pas venir parce qu'il a perdu son dernier combat par KO. Et Yvon a la règle qu'il ne veut pas voir d'adversaire qui a perdu son dernier combat par KO. Okay. Lenroy Thomas, l'adversaire de Simon Kane, 25 victoires, 6 défaites, 1 nulle. Il est né en Jamaïque, il mangeait des vidanges. Déménage à Saint-Pétersbourg, Floride. Il se fait connaître dans des textes parce qu'il boxe pro. Il perd son premier combat contre Ruben Rivera, okay, parce que... qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que Thomas tombe en partant. Rivera, il swing en pleine tête. Il se fait enlever 2 points, mais il gagne les 3 autres rounds. Fait que Thomas perd son premier combat. Là, j'ai encore pogné la grippe. Thomas a une série de victoires. Il devient un genre de prospect. Là. Petit prospect, mais il va perdre 2 combats de suite par KO. Contre Aaron Leon et contre Dominic Brazil. Okay, c'est un gars qui a quand même visité, qui a quand même été arrêté 5 fois. Il a été arrêté par André Fedosov, mais Fedosov, c'est un animal au 3e round. Et là, il a été arrêté au 2e par Joe Joyce, puis au 3e par Aaron Smakisi, OK? Si on regarde ses KO des 5 dernières années, les 7 dernières années, Fedosov, Joe Joyce, puis Smakisi, tu sais, c'est des boxeurs qui sont de... sans rien enlever, ils sont de meilleur niveau que Simon, tu sais. Lui, il avait été challengé par David Allen pour le titre du Commonwealth, vu qu'il est jamaïcain. Puis il a eu la performance de sa vie, il a battu Allen au juge en Angleterre. Et à la revanche, il y a eu un coup de tête, combat no contest en partant, qui a été viré en combat nul. Étrange qu'il ait fait une nulle avec un combat au premier round. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis il a perdu son titre du Commonwealth après contre Joe Joyce. Il s'est fait arrêter d'une gauche à la tête en partant au premier round, puis il s'est fait finir au 2e. Okay? C'est un gars qui a aucune chance contre l'élite, mais si Simon part lentement comme il fait habituellement, Thomas va s'encourager, va penser qu'il peut l'emporter, et là, va devenir dangereux. T'sais. Faut pas se rendre ce gars-là trop confortable, t'sais. Il pourrait être à l'aise t'sais, contre toi dans le ring. Fait que là, Simon, je pense qu'il est pas au niveau des défaites que Lenroy Thomas a eues, les adversaires. Donc, ça va être à mi-chemin. T'sais. Puis Simon, mal paru à son dernier combat, visiter le tapis. Thomas va s'encourager. C'est un gars de la Floride qui est signé par un promoteur allemand. J'ai l'impression qu'on va avoir un combat serré. Joe Kouzoumano, qui était supposé venir ici pour affronter Arslanbek Makhmoudov. Kouzoumano, lui, il a décidé que... il voulait affronter Makhmoudov. Tu sais. Fait que, ah ouais, fait 2-3 affiches chez les médias sociaux. La vie est belle. Mais là, tenez-vous bien, il n'a pas payé une pension alimentaire. Donc, il ne peut pas rentrer au pays. Okay? Fait que là, le Zozo, il est pogné aux États-Unis et on n'a plus d'adversaire. Fait qu'on ne sait pas qui va l'affronter, mais on voit les standards. Tu sais. Joe Cosumano, là, l'Italien, c'est pas Mohamed Ali. Hein? Pour ceux... qui se doutait de... C'est-tu Mohamed Ali, lui? Non. C'est un gars qui est 86e sur BoxRec. Fait que là, on s'attend... Il va probablement mourir, là. Je pense que je suis rendu à une dizaine de pneumonies cette année. Tu sais, si Joe Cosumano, là, ça n'a pas marché, attendez-vous que ça pourrait être quelqu'un qui est classé à peu près dans le même classement, tu sais. Adam Stewart, 13-1. Nathan Gorman... Non, Joey Daweshko qui est 23-10, tu sais, voyons, ils vont pas caler le gars qui est 4e sur BoxRec quand il y avait le 86e de canet d'un contrat, tu sais, comme dirait ma grand-mère. Je vous en allais vous nommer German Franklin, mais Franklin a signé pour affronter Dillian White. Attendez-vous à genre Mike Balogun, tu sais, ce serait le meilleur que je m'attends, mais ce sera pas lui. Gerald Washington coûte trop cher. Johnny Rice est déjà venu. Est-ce que ça pourrait être un gars comme Jonathan Guidry, qui est un pêcheur de crevettes de 300 livres, qui a un menton épouvantable? Est-ce que lui accepterait celui qui vient de perdre contre Trevor Bryan en championnat du monde? Il avait gagné un juge. Peut-être ça va être Jonathan Guidry, genre, mais je m'attends à ce que ce soit un Américain pour plaire à la télé américaine. Mary Spencer, elle, va affronter Femke Hermann. Il y a pas, je vais vous le dire, ça fait pas la file pour affronter Mary Spencer. Femke Hermann, c'est une fille de Belgique qui mesure 5 pieds 8, 13 victoires, 4 défaites, a été arrêtée une seule fois par Savannah Marshall. Elle, on l'a connue quand elle s'est battue en championnat du monde contre Alicia Napoléon Espinosa, qui est aussi une genre de mannequin là, avec les cheveux noirs. Elle s'appelle l'Empereur. Elle était supposée affronter Dicker une couple de fois. Fait que elle ne gagne pas un round contre Espinosa aux États-Unis. Elle retourne chez eux. Elle se promène un peu la Belgique, l'Allemagne. Et là, elle va battre Nikki Adler, qui est une bonne boxeuse quand même de sa division. Après ça, on va faire des combats un peu plus faciles. Et là, on va l'envoyer contre Clarice O'Shiz, où là, elle ne gagne pas un round, OK? Après ça, elle a quand même tout de suite sa chance en championnat du monde à 168 livres, où elle va affronter Hélène Cerredos. Elle va gagner des rondes, mais elle va perdre la majority la plus serrée de l'histoire, là. 95-95, 2-96-94. Et là, Savannah Marshall va la passer au troisième. Mais Savannah Marshall, c'est clairement la plus grosse cogneuse de la boxe féminine présentement. Quand même intéressant, parce que Clarice O'Shiz a fait 10 rondes, Marshall en a fait 3. Est-ce que Spencer la passe au premier puis elle lance un message à la division? Ou est-ce qu'entre Marshall puis Shields, elle la passe au sixième puis là, on fait comme, oh, OK, tu sais, les comparables sont là, mais Marshall gagne quand même ce comparable-là. T'sais, où elle va s'installer entre les deux ou elle va jeter le monde à terre? C'est une bonne adversaire. Écoute, une fille qui s'est déjà battue à 168 en championnat du monde, à 160 en championnat du monde, qui là, était à 151 à son dernier combat. Elle a clairement fait comme, OK, j'arrête de manger la crème glacée puis je me remets en shape. Me donner une chance. Elle est 15e au monde. Écoute, c'est bien parfait. C'est bien parfait, OK? Bravo. Vous avez pris la meilleure fille qui était disponible puis qui disait oui, tu sais. J'applaudis. C'est bon pour Spencer. Il y a des comparables. La vie est belle. Steven Butler a quand même un bon adversaire. Un gars qui s'appelle Joshua Conley, OK? Ça me ferait... Je disais les commentaires en dessous des en dessous de... Eye of the Tiger, puis le monde disait « Non, c'est donc bien cher, les billets! » Ben oui, mais là, ils vous amènent Lenroy Thomas, ils vont vous trouver un autre gars classé pour Makhmoudov, ils amènent Femke Hermann, ça coûte de l'argent, tu sais. Allez, regardez la sous-carte qu'Yvon Michel met le 1er décembre, puis regardez celle de Eye of the Tiger, demandez-vous qu'est-ce qui coûte le plus cher, tu sais. Là, ça va faire sursauter des bons amis à moi qui va dire « Un combat de championnat du monde! » Oui, je le sais, mais en boxe féminine, c'est pas les grosses sommes, OK? Kim a vu plus de ses commanditaires que de ses bourses, OK? Je vous fais une annonce, là. Si Kim vivait de ses bourses, elle louerait le 3,5 à côté de chez mes parents, t'sais. Puis j'essaierais de dealer le même prix que moi, t'sais. Fait que Joshua Conley, qui est 17-4, va affronter Steven Butler. C'est un gars qui était... un prospect, jusqu'à temps de faire un combat nul contre un Mexicain qu'on y avait trouvé là, pour l'amener ici, un gars qui s'appelait Roar Sanchez, ma mémoire est bonne. Le Mexicain, il a une fiche de 8 victoires, 32 défaites, OK? À l'époque, quand il vient ici, il est 4-7 mais aux États-Unis. Et il fait un combat nul avec Joshua Conley. Fait que là, on dit, ouais, Conley, c'est peut-être pas le prospect qu'on pensait, tu sais, le promoteur est un peu moins content. Et il va lui trouver un gros combat contre Julian Williams, qui est le préféré de Victor Kenny Sherry. Il se fait arrêter par Williams. Il se fait arrêter par Carlos Adames. Quand même, c'est deux gars classés, mais il se fait arrêter vite au deuxième. Et il rate le poids à 154 livres. Après ça, il veut s'assurer de ne pas rater le poids. Il va se battre à 180 livres au Mexique. Même pas de perte de poids, rien. Il n'a aucun tout cru. Il knock deux tout croche de suite et là, il se met sa map en surprenant Curtis Steven l'année passée. Steven revient de sa retraite. Il gagne un round contre Joshua Conley. Okay. Après ça, il va affronter Sergei Derevyanchenko. Il va faire la limite à 160. Bon, le gars a fait la limite avec Derevyanchenko, gagner un round. Là, il va affronter un tout croche la semaine prochaine, puis il va venir ici après, OK? Bon, c'est correct, là, tu sais, Steven, c'est le quatrième combat en importance de cette soirée-là. On l'installe et je dirais bravo, bravo. C'est un bon adversaire. Écoute, c'est le quatrième combat en importance. On garde Steven actif, on le monte. Tenez-vous bien, j'abandonne pas sur Steven Butler. Dans le les autres nouvelles qu'on a apprises, ça m'a impressionné. Pour affronter Maslow McDonny, on va amener Samuel T pour la ceinture WBC continentale. Samuel T, c'est un gars qui nous vient du Liberia, qui a déménagé à Philadelphie, OK? Lui, là, il passe pro tranquille en 14. Il perd une décision contre un boxeur qui s'appelle Lavisa William, OK? Ben, il est jeune, il fait ses petites affaires, il se replace. Et là, il va se replacer jusqu'à affronter Montana Love en 2018, où il va perdre une majority decision contre Montana Love, qui est un méga prospect. Après ça, il ne gagne pas un round contre Treshawn Wiggins. Okay? Ça, c'est peut-être son pire combat en carrière. Et il se fait arrêter violemment par Brandon Lee. Mais il a surpris le prospect Kenneth Sim. Il a surpris Sonny Frederickson, qui est un autre gros prospect. C'est un gars qui a les abdos déchirés sur le corps. C'est vraiment pas un mauvais boxeur pour affronter Maslow McDonny, qui n'est pas si vieux que ça, qui a juste 25 ans, qui est 17-0, qui a trimé dur pendant la pandémie contre Eric Encinia. Donc, il faut quand même trouver des adversaires logiques pour Maslow. Maslow qui a seulement un KO à ses 5 derniers combats. Il y avait la grosse claque contre peut-être un plus bas niveau. Là, il semble plus avoir la. Il semble pas avoir la claque pour étendre les gars d'un punch quand on a monté le niveau. Tu sais, il est obligé de boxer maintenant. Et à la limite, il le fait bien. Tu sais, il boxe bien. C'est un gars qui est agressif, mais contrôle ses affaires, gaucher. Mais là, il y a un bon adversaire devant lui. Et j'ai appris entre les branches qu'il allait seulement avoir 6 combats le 1er décembre prochain. Mes amis, j'espère que tous les adversaires vont se rendre au pays parce que vous allez encore avoir l'air nono. 6 combats, l'adversaire de Pomerlo reste prêt à douane, l'adversaire de Basran se revire un pied, puis on tombe à 4. Hein? On a déjà vu ça souvent. Vous jouez un jeu dangereux de vous arrêter à 6 combats. Il y a un an, jour pour jour, on est 17 octobre, Oscar Rivas remportait le titre WBC des Bridgerweight. Depuis ce temps-là, Alexander Usyk est devenu champion à 221 livres. On a vu Wilder en fin de semaine à 214, je pense. La ceinture n'a jamais été défendue. On a passé de Romanov à Rosensky à Babik, sans jamais qu'il y ait d'annonce, sans jamais qu'il y ait de combat. On a passé de Jennifer Lopez à Bobby Brown, à la Colombie. On a changé de ville 2 fois. Je ne sais pas c'est quoi le plan avec Oscar Rivas, mais je trouve ça disgracieux de le laisser dans une totale inactivité, de ne pas lui permettre de faire d'argent, de ne pas aboutir. C'est une disgrâce de penser que Rivas, là, depuis les 3 dernières années, il s'est battu contre Silvera Louis, qui, en tout respect, était fini. Puis il s'est battu contre Ryan Ruzicki. Les deux gars pesaient 203 livres. Il a été complètement inactif dans la division des poids lourds. Il s'est pas battu contre personne, tu sais, à la limite. Louis Pirouziki, c'est des locaux. Il n'est pas impliqué sur la scène internationale. La bourse devait être terrible. Il n'a pas dû faire beaucoup d'argent à l'Hôtel Plaza. À l'Hôtel Plaza, là, ils ont réservé l'Hôtel Plaza. Là, le monde s'achetait des billets. Là, ils se sont rendus compte que les balcons cachaient le ring. Le monde ne voyait rien. T'sais. Ben chic. Puis Ryan Ruzicki... T'sais, il était 18e dans la division d'en dessous. Là. Fait que ce serait intéressant que ça débloque pour Rivas qui est à un an d'inactivité, mais je vous l'annonce, se débloquera jamais, puis Rivas va prendre sa retraite et il va être pauvre comme la gale. Désolé, c'était Laurent, toujours aussi positif. Donc, c'est voilà qui met fin à ta chronique préférée, la chronique québécoise. Écoute, je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre. On a des boxeurs, c'est ça, là, c'est ta chronique québécoise. Disons, on peut pas, il se passe à rien, j'inventerai pas des affaires, puis là, je vous ai quand même parlé un peu. Chronique internationale. Dillian White va affronter Jermaine Franklin le 26 novembre prochain. On dirait qu'il y a un bassin de boxeurs corrects, là, tu sais, que tu peux affronter quand tu es au sommet. Puis là, tout le monde en veut un, tu sais. Makhmoudov en veut un. Wilder en voulait un, il en a trouvé un. Là, Fury s'en cherchait un. Là, Dillian White s'en cherche un. Tu sais, tout le monde atterrit. Probablement que Dubois puis Joe Joyce s'en cherchait un aussi. Fait que tout le monde se cherchait un tout croche. Mais tout le monde en a eu un. Incroyable. Sinon, George Camboso Jr., on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va devenir. Lui, il dit qu'il va retourner au sommet rapidement. Devin Haney cherche à peu près tout le monde. Anthony Joshua devrait, selon Ricky Hatton, devrait changer toute son équipe d'entraîneurs. Tu sais, comme ça me verrait, parce qu'on dirait tout le temps que tout le monde dit que Joshua est mal entraîné. Pourtant, moi, j'ai trouvé que sa performance était bien correcte. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Caleb Plant dit qu'il est un des meilleurs 168 livres au monde. Ben oui, Caleb, t'as raison. Demetrius Andrade a lancé un défi à Caleb Plant. Andrade, que le poids des années commence à se faire pesante sur lui. Là. Andrade, les années passent, il se bat pas. Deontay Wilder s'est excusé à Robert Hellenius pour l'avoir mis KO. C'est beau, Deontay, t'es une bonne personne. Wilder veut affronter Anthony Joshua dès son prochain combat. Mais la WBC devrait annoncer un combat entre Wilder et Andy Ruiz et le gagnant aura accès à Tyson Fury. Peut-être qu'on va avoir un quatrième combat. Wilder, lui, cherche aussi un combat contre Alexander Usyk. Écoute, pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas. Moi, j'achèterais ça, là. Wilder contre n'importe qui, je suis acheteur. Sinon, j'ai pas grand-chose pour vous. La semaine prochaine, on a un combat très intéressant. Pas un combat, là, une sortie de livre. La semaine prochaine, c'est ça que je voulais vous dire de très important. La semaine prochaine, Alain Bonamy sort son livre. On va faire un essai de vous en parler comme il faut, là. Je vais être derrière ça un peu. Et là, je vous avais préparé. J'ai même pas de thème, mais je vais faire un thème, OK? La chronique « Nul ne sait où il va, s'il ne sait d'où il vient » avec Laurent Poulain. Je voulais vous parler d'une des plus grandes histoires du Canada. J'ai pogné ça hier sur Audio, H-O-D-I-O. Fred Christie, OK? Un homme, c'est un Jamaïcain qui travaille comme bagagiste à l'époque à Montréal. Et on est en 1936. Christie gagne bien sa vie, il gagne sa vie correctement. Il tripe sur le hockey et il va régulièrement au Canadien de Montréal au forum. Okay? Puis mon Christie, il va tout le temps au forum avec les deux mêmes amis blancs. Il rentre, on est en 1936, il demande 3 bières, il donne 50 cents au gars. La bière est 10 cents, il laisse 20 cents de pourboire. C'est une autre époque. Il boit ses 3 bières, mais chacun, lui et ses deux amis, et il rentre au Canadien de Montréal. Et là, j'étais un peu mêlé dans mes noms. C'est mon bon ami ce matin qui m'a dit « T'es un peu mêlé dans tes années », mais quelques semaines avant, il y a un combat de boxe aux États-Unis entre Max Smelling puis je pense que c'est Joe Louis. Et là, Smelling va battre Joe Louis, mais là, si ma mémoire est bonne, c'est sûr que je pourrais vérifier, j'ai l'ordinateur ouvert devant moi, et ça va soulever, parce que Smelling est blanc, Puis Joe Louis est noir. Et Max Melling, en plus, c'est le boxeur de l'Allemagne nazie. Il est comme supporté par le gouvernement en place. Et là, j'essaie de ne pas me mêler dans mes histoires. Exact, il va perdre contre Max Schmeling le 19 juin 1936. On est trois semaines après dans mon histoire du 11 novembre, du 11 juillet, OK? Ça fait que là, Joe Louis, il va se faire arrêter au 12e round par Max Schmeling, qui c'est un combat blanc contre noir, l'Allemagne nazie contre un noir américain. Et il va y avoir un soulèvement dans les quartiers populaires américains où on casse tout, tu sais, parce qu'on est fâché que notre boxeur, Joe Louis, ait perdu contre un blanc. Fait que là, ça brasse un peu. Et là, on est inquiet parce que on a peur que ce soulèvement se rende au Québec. Donc, le forum, c'est un coup de tête, décide d'arrêter de vendre de l'alcool aux hommes noirs. Étrange. Mais ils disent, non, tout d'un coup, qu'ils se rebelleraient puis qu'ils casseraient tout dans nos rues aussi. Fait qu'on n'en fait plus de... On vend plus d'alcool. Lui, il avait toujours pris sa petite bière au forum, tu sais, tranquille. Mais là, il décide qu'il n'est pas content. Okay? Fait qu'il s'en va, il amène la cause en cour et il n'y a pas, à l'époque, il n'y a pas une famille noire qui n'a pas donné une somme d'argent... La somme qu'il pouvait donner à Fred Christie pour qu'il puisse aller en cour longtemps. Okay. Fait que mon Christie, il rentre en cour et là, il va gagner à la première instance. On va dire, il y a une vieille loi de Tavernier qui dit on ne peut pas. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, Christie s'en allait à la boxe ce soir-là. Fait que c'est comme la boxe qui a mis fin au racisme au Québec. C'est ça, je voulais vous dire, il y avait une ligne dans mon histoire. C'est que Christie, lui, s'en va au gala de boxe. Parce que c'est de la boxe qu'on présente pendant la saison morte de hockey. Et c'est en allant à la boxe que Christie se fait refuser la bière au bord du forum. Et là, il s'en va en cour et la première instance va dire qu'il y a une règle de tavernier qui... c'est obligatoire de servir un bagagiste parce qu'il doit manger s'il veut être capable de travailler, tu sais, pour participer à la société. Donc, on va se servir de cette loi-là pour dire le bar doit... 25$ d'amende à M. Christie. Mais il refuse de payer, ça s'en va en Cour suprême. Et là, en Cour suprême, il y a trois juges sur quatre qui vont dire, ben là, franchement, monsieur est bagagiste, c'est une loi pour les touristes qui viennent ici, genre, travailler. Fait qu'on retourne la décision et finalement, à peu près 5 ans plus tard, on va ramener la décision pour dire... Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Il aurait fallu le servir. Pour vous donner une idée, vous allez capoter. Les femmes n'ont pas eu le droit d'aller dans les bars jusqu'en 1979, OK? Et là, il va y avoir une loi. Fait que là, finalement, notre ami... C'est mêlé, mon histoire, hein, mais... Vous avez comme compris la ligne, là. Finalement, Fred Christie... Mais il va comme jamais gagner sa cause. Ça va prendre des années avant que la cause soit ramenée, mais c'est lui qui a vraiment amené le débat. Et là, Christie va déménager, il va travailler à l'atelier du Père Noël aux États-Unis, dans le coin de New York. Il va venir finir ses jours ici à Candiac, en banlieue de Montréal. Et même que Christie n'en parlera pas vraiment à personne, c'est une de ses petites filles qui va découvrir l'histoire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un podcast, là, c'est... Une des plus grandes histoires du Québec, dans le fond, c'est vraiment M. Christie, en allant à la boxe, qui va mettre fin à la ségrégation raciale au Québec. Donc, c'est juste que je voulais vous dire à quel point la boxe, c'est important. Puis, allez voir sur Audio Fred Christie, c'est mieux raconté de comment je viens vous le raconter, là, je veux dire. Si j'avais un talent de raconteur, il n'a pas paru dans les 4 dernières minutes. J'essayais de rendre mon podcast plus intelligent avec un moment historique. Puis je vous dis, j'ai scrappé complètement l'histoire. Mais bref, un des plus grands procès de l'histoire du Québec, c'est Chris Christie contre la taverne du Forum. Fred Christie contre la taverne du Forum, alors qu'il s'en allait à la boxe, se fait refuser de vendre une bière à un homme noir. Parce que 3 semaines avant, Max Schmeling a battu Joe Louis et on craint un soulèvement. Donc, vous voyez, la boxe est souvent à l'avant-scène des grands changements dans l'histoire. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, le podcast va revenir dimanche et je vais essayer d'être mieux structuré quand je vous raconte une histoire. Je vous aime tous.
Mais que ce soit Johnny Gaudreau, que ce soit Hulk Hogan, que ce soit King Kong Bundy, n'importe qui, il faut que tu ailles le défendre. Ouais. Moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, là, ça l'aurait calqué dans le derrière pour dire ça.
La façon. Moi, Bob Wagner a fait la même chose.